Nous allons aborder la question de la vocation de l'homme et de la femme. C'est bien le sujet, c'est bon. Ouais, c'est bon. Au moins, je ne me suis pas trompé de sujet, c'est déjà ça. Et nous allons l'aborder dans une petite introduction sur cette question qui est une question assez délicate, somme toute. Délicate et qui, on le voit, est remise en cause par un certain nombre de nos contemporains. Et je crois que c'est important de dire que tout d'abord, ça se situe dans un contexte, cette vocation de dire que la femme et l'homme ont une vocation particulière, ça se situe dans un contexte aussi d'un contentieux assez lourd entre l'homme et la femme de par les siècles. Et on voit bien que, particulièrement au XIXe siècle, où s'est installé avec le rigorisme moral du XIXe siècle, toute l'époque aussi... victorienne, tout ce rigorisme qui nous vient aussi du protestantisme, mais aussi qui a été dans le catholicisme, on voit bien qu'il y a eu une, et donc aussi un côté très machiste aussi dans le XIXe siècle par rapport au rôle de l'homme sur la femme. Donc qu'est-ce qui est du modèle bourgeois hérité de ce XIXe siècle et qu'est-ce qui est de la vocation propre de chacun? Je pense que c'est, faut bien faire, qu'est-ce qui est de l'ordre du culturel? Parce qu'il y a de fait du culturel dans la réalité féminine. Et comme dans la réalité masculine, elle s'est pas exprimée de par les siècles de la même manière. Et il faut faire attention à ne pas réduire à un certain nombre de clichés. Hein. Donc qu'est-ce qui est de l'ordre du culturel et qu'est-ce qui est de l'ordre du naturel et plus spécifiquement du divin. Et donc d'une vocation, d'un appel. Il ne faut pas réduire au cliché parce que c'est vrai qu'on aurait vite tendance à... Et on voit bien que ça a explosé en vol, surtout avec mai 68, mais tendance à faire rentrer dans des cases hommes et femmes. Alors les femmes sont sensibles. Oui, mais moi je connais aussi des hommes sensibles, et je connais des femmes très peu sensibles, voire dures. Les hommes sont plus batailleurs, etc. Oui, mais le cher Kadhafi, paix à ses cendres, quand il s'est agi de choisir une escorte pour sa sécurité personnelle, il n'a pas choisi des hommes, mais des femmes, hein, comme garde rapprochée et puis extrêmement formée dans les techniques de combat, etc. Donc on peut dire, c'est pas facile, parce qu'il ne faut pas réduire à des choses à faire, si vous voulez. Il ne faut pas réduire à des choses à faire, il ne faut pas réduire à des attitudes qui peuvent être des clichés, parce que, de fait... je pense par exemple à des pays plus pauvres, on se pose souvent la position du travail de la femme, etc. Dans les pays plus pauvres, les femmes ont toujours travaillé, toujours. Et dans les pays plus pauvres, c'est les femmes qui tiennent, les hommes sont plus ou moins catastrophiques, et c'est les femmes qui tiennent la route. Moi je vois surtout dans les milieux plus populaires, dans les bidonvilles en Amérique latine, ben, heureusement que les femmes sont là pour maintenir, ou dans le Maghreb, ou dans, etc., dans les milieux agricoles, c'est les femmes qui sont au travail. Donc vous voyez, c'est intéressant de... Il y a quelque chose d'un modèle bourgeois hérité du XIXe siècle, la femme à la maison, l'homme au travail, une forme de vraiment la femme tout à fait dans l'ombre, mais qui n'a pas été tout le temps comme ça. Je crois qu'il y a des femmes au Moyen-Âge, par exemple Catherine de Sienne, qui ont eu une grande influence politique. Et au Moyen-Âge, quelque part, les femmes avaient plus d'influence que pendant le XIXe, non, plus maintenant, parce que grâce à Dieu, je trouve ça... Mais on voit bien que... Il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Je dis ça parce qu'on peut parfois vouloir restaurer quelque chose d'ancien, avoir la nostalgie. Avant, c'était mieux. Avant, c'était mieux. Non, si c'était mieux, pourquoi ça a éclaté en vol? Avant, c'était mieux. À mon avis, ça ne tient pas la route parce que, justement, si c'était si bien que ça, ça aurait perduré de par les siècles. Et donc, on voit bien qu'il y a un modèle relation homme-femme qui a explosé et puis laissé la place à beaucoup de choses, beaucoup de n'importe quoi aussi, parce que ce qui est devenu n'est pas non plus la panacée universelle. Et donc, pour l'Église, quelque part, c'est aussi un challenge, je veux dire, d'aller creuser plus profond, au-delà des codes moraux, des codes sociétaux et des clichés, d'aller creuser quelque chose, sachant que on a la parole de Dieu, on a la réalité du corps qui nous aide, qui sont les deux sources de réflexion par rapport à notre vocation d'homme et de femme. Mais on va voir, est-ce que ça tient la route? Qu'est-ce qui va au-delà? Parce qu'en fait, où est-ce qu'on va chercher un point d'appui qui va au-delà des clichés, qui va au-delà des images toutes faites, hein? Et du coup, je crois que la parole de Dieu, de ce point de vue-là, est vraiment, vraiment formidable, parce que justement, elle nous donne un éclairage. Parce que où trouver l'éclairage? C'est vrai, ceux qui ne sont pas croyants, oui, il y a un éclairage sur lequel on peut s'appuyer, qui est l'éclairage du corps. Parce que là, pour le coup, c'est une donnée universelle, hommes et femmes ne sont pas construits pareils, quoi qu'on en dise. Et pourquoi ça peut être un premier éclairage qui aussi peut s'adresser à des personnes non croyantes. Parce qu'au fond, dans le corps de l'homme et le corps de la femme, et cette altérité, ce sont des corps sexués, et donc ils sont au monde comme hommes et comme femmes, dans ces corps d'hommes et de femmes, il y a quelque chose qui est dit aussi de notre propre mission, de notre propre vocation. Le corps n'est pas simplement une enveloppe, on l'a vu la dernière fois, c'était la dernière fois avec la sexualité, me semble-t-il, ou l'avant-dernière fois avec la sexualité. Le corps, je vous renvoie à tous les enseignements là-dessus, le corps n'est pas simplement une enveloppe charnelle, n'est pas un amas de cellules, le corps dit la personne. Et donc, on est au monde avec notre corps pour dire aussi quelque chose de notre personne. Et on est au monde avec notre corps, corps féminin, corps masculin. Et dans ce corps, qu'est-ce que l'on découvre? Deux choses. Premièrement, la maternité chez la femme. Et ça, c'est quelque chose qui donne aussi, je veux dire, la femme, quelque part, plus naturellement, si on veut parler de nature, parce que c'est la question, plus naturellement, de par son corps, sera tournée vers la maternité et du coup, apprendra plus à être épouse. Et on voit bien que, avec la naissance du premier enfant dans bien des foyers, eh bien, la femme se sente beaucoup sur le nourrisson qui vient de naître, etc. Et il faut qu'elle fasse attention à ne pas délaisser son époux et à ne plus être épouse. À ne plus, à se centrer sur l'enfant et à ne plus voir. Alors que le mari, dans son désir sexuel de s'unir avec son épouse, est d'abord époux, et d'abord dans son désir d'union, et d'abord tourné vers sa femme, et il apprendra à devenir père. Et on voit bien qu'il y en a un qui est d'abord mère et apprendra à devenir épouse, et il y en a un qui est d'abord père qui apprendra à devenir époux et qui apprendra à devenir père. Parce que c'est pas si facile d'être père. Peut-être, je sais pas si c'est dans le programme de cette année, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra traiter. Mais alors, du coup, c'est intéressant de voir que de par le corps, on voit déjà une complémentarité. Et puis, on peut dire aussi, par les organes qui donnent la vie, intériorité, extériorité, on voit aussi que on peut déjà traduire, penser, tout en partant du corps, que cette extériorité chez l'homme, cette intériorité chez la femme, des organes qui donnent la vie, renvoie peut-être à quelque chose de plus profond, quelque chose qui est de l'ordre aussi de la vocation, de l'appel, intériorité chez la femme, et on peut pas, pour le coup, on prend dans la parole de Dieu, et Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. Est-ce que de par sa nature, la femme est plus intérieure, est plus spirituelle, est plus tournée vers la personne aussi, de par sa maternité? Ça, je pense que la femme est plus tournée vers la personne parce qu'elle a cette capacité d'engendrer. Et ça, je crois que... Et du coup, on trouvera traditionnellement dans des métiers féminins des métiers d'aide à la personne. Tourner vers la personne, que ce soit les métiers de santé, des métiers d'éducation, tout ce qui peut être des métiers de soutien à des personnes en fragilité, comme des personnes âgées, par exemple les aides de vie. Hein, je vois pour notre père Jean, il y a des auxiliaires de vie, on appelle ça auxiliaires de vie, voilà, qui passent, parce que bon, il ne peut pas faire sa toilette, etc. Spontanément, je veux dire, on voit bien que c'est des femmes qui se tournent vers ces métiers-là. Parce que je croyais que de par la maternité, il y a une relation à la personne humaine qui est bien plus forte, qui a une et particulièrement à la fragilité de la personne humaine. Hein, mais de, alors que l'homme, de par son extériorité, l'extériorité des organes qui donnent la vie, eh bien, sera beaucoup plus tourné vers le faire, vers la réalisation d'œuvres extérieures, vers la réalisation de, vers l'efficacité quelque part. Et le lien avec la personne, et le fait de s'occuper de la personne de l'autre, il faudra qu'il l'apprenne, et il l'apprendra de son épouse. Ça va pas trop vite, c'est bon. Donc du coup, ben, tout est enregistré, c'est bon. Donc tout est dans la boîte, et ensuite c'est le rattrapage. Donc c'est intéressant de voir, voilà, premier point, on part du corps, et dans le corps, on voit déjà que se dessine, homme et femme, une complémentarité, maternité et personne pour, et disons, amour de la proximité de la personne humaine. Et avec intériorité chez la femme, et donc du coup plus l'aspect intérieur, prise de conscience de ses émotions, dimension spirituelle, méditation, etc., au-delà même de l'Église catholique, hein, je veux dire de façon générale, et chez l'homme par le fait d'être dans l'extériorité des organes qui donnent la vie, eh bien c'est aussi une plus, il faut dire plus, parce que c'est des tendances. Il y a des femmes qui sont très peu maternelles. Voilà, maintenant, c'est des tendances. Je pense qu'il faut, aussi... il y a des hommes qui sont des papapoules. Donc, là aussi, réduisons pas les choses. On dit, on va plus dans ce sens-là. Ça veut dire quoi, plus? Ça veut dire qu'on apprend à devenir homme, on apprend à devenir femme. C'est pas quelque chose d'inné. Et de fait, c'est quelque chose qui se construit. Ça, c'est vrai. Parce qu'on part de son corps... Et on prend son corps pour un pédagogue. Et donc, du coup, le fait que ça, on parle de homme et femme, et ça, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, par exemple, dans la théorie du genre qui, elle, carrément va vers le fait que il n'y a pas, le genre, c'est un choix, il y a la nature biologique, je suis peut-être biologiquement homme ou femme, mais ensuite, je choisis d'être homme ou femme de par mon choix personnel. Alors, nous, on dit, attention, on allume un peu les warnings, mais il y a quelque chose d'assez juste, c'est que, de fait, on apprend à devenir femme, on apprend à devenir homme. Et la femme, le premier regard qu'elle croise d'homme, c'est le regard de son père. Et donc, sa féminité, et on voit bien, elle voudra séduire son père comme sa maman séduit son père. Je veux dire. Donc, du coup, quand ça fonctionne bien, cette identification avec la maman qui séduit le père et puis le papa, le petit garçon qui veut ressembler à son papa, du coup, il y aura quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Ne croyons pas que tout est inné. Il y a des choses qui sont aussi culturelles et qui bougent, hein, mais en même temps, tout n'est pas inné, il y a des choses qui se construisent. Mais qui se construisent à partir d'une réalité corporelle, c'est-à-dire que là, le corps nous indique une ligne. Et ça, je pense que ça, c'est important de dire qu'on ne part pas de rien. La difficulté dans la théorie du genre, c'est que la personne humaine est libre absolument de toute réalité. Elle décide dans sa tête d'être homme ou femme au-delà même de son propre corps. Et c'est là la difficulté, c'est qu'on ne part pas de la réalité du corps et donc de la réalité tangible et pour dire ça ouvre un espace pour une vocation, pour un appel. Non, on part de son esprit et on s'auto-construit quelque chose et parce que voilà, j'ai décidé d'être homme et femme parce que je ne veux pas de conditionnement. Mais ça, je ne veux pas de conditionnement. Je veux dire, même Dieu est conditionné parce qu'il est appelé à l'amour. Donc, aucun conditionnement, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. C'est une tentation du démon. Je veux dire, disons-le très, très clairement. Aucun conditionnement, on est tous conditionnés. Hommes et femmes, y en a qui sont nés dans tel pays, dans tel autre, dans telle situation économique, dans tel autre, etc., etc. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a le fait de sortir. Alors, pourquoi c'est venu cette théorie du genre, c'est intéressant. Est-ce qu'on n'a pas trop souligné aussi, questionnons-nous, est-ce qu'on n'a pas trop souligné et de façon trop caricaturale un rôle de la femme et un rôle de l'homme sans un vrai fondement, sans une pédagogie, sans une explication. On dit c'est comme ça. Et bien à un moment donné, il y en a qui ont dit mais non, ce sera autrement. Et du coup, ils se sont révoltés. Et donc, on voit bien, avec mai 68, et on voit bien Judith Butler, qui a fait toute la... qui est l'idéologue, on peut dire, de la théorie du genre, vient de se... et s'inscrit dans cette fonction-là. Mais possible, parce qu'on n'a peut-être pas assez expliqué. Donc, n'allons pas diaboliser les personnes en disant, voilà, c'est ceci, c'est cela. Si c'était si clair que ça, et si limpide, eh bien, ça n'aurait pas pris. Si je vous dis que ça, c'est une vache, ben, j'ai beau l'expliquer, ben non, vous me direz, c'est une table. Du coup, ça prendra pas. Mais ça veut dire que, quelque part, progressivement, alors on peut dire, il y a du lobbying par les médias, etc. Oui, c'est possible. Mais il y a du lobbying. Mais s'il n'y a pas, derrière, quelque chose de vrai, il faut toujours... C'est intéressant, Aristote, il dit toujours, cherchons ce qu'il y a de vrai dans ceux qui ne pensent pas comme nous. Cherchons de ce qu'il y a de vrai. Hein, et donc, du coup, parce que ne rentre dans l'intelligence que sous l'aspect de vérité, quelque part. Et donc, c'est intéressant de voir que qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette théorie du genre, c'est que c'est vrai que on advient, on se forme pour devenir homme, on se forme pour devenir femme. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inné par le corps, mais il y a quelque chose de l'acquis de par l'éducation. Donc, il ne faut pas non plus dire que tout est transcendant et métaphysique. C'est-à-dire que, absolument, en dehors du temps, métaphysique, c'est ça. Au-delà, métaphysique, c'est au-delà de la nature, au-delà du sensible, en dehors du temps, dans les dents. Tout est une réalité absolument transcendante. Non. Il y a des choses, la réalité homme et femme a beaucoup varié de par les siècles. Et je pense qu'il faut aussi le en prendre acte et de dire, voilà. Alors, qu'est-ce qui est le fondement? Donc, on part, première chose, le corps. Ça va pour ça? Ensuite, la parole de Dieu. Je vous ai donné donc le texte de Genèse, qui est un texte fondateur pour la relation homme-femme, mais aussi pour la relation en général, pour la réalité humaine. Comment prendre ce texte de Genèse et de façon générale le récit de la création ? C'est un texte biblique, c'est pas un texte journalistique, c'est pas un texte de récit de scientifique qui a fait une analyse précise, qui a dit voilà, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, etc. Non. C'est un texte qui nous dit beaucoup de choses, le texte de Genèse, en général de la création. Premièrement, c'est qu'il y a un Dieu unique. À la différence des polythéistes, et surtout des Égyptiens. Vous vous rappelez, les Égyptiens, qui étaient la grande puissance d'alors, les Égyptiens, puis tout Israël était entouré, les Assyriens, etc. Tout cela était absolument polythéiste. Et ce qui est assez intéressant, c'était que leur dieu était sexué. Et on le voit bien dans la mythologie grecque et romaine qui est plus proche de nous. Mais il y avait, en fait, on voyait la réalité humaine, on voit qu'il y a des hommes et des femmes, et on dit que la réalité divine, elle doit être pareille. Alors, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Pluton, il y a Zeus, etc. On crée, il y a le dieu de la Terre, le dieu, et on voit dans les mythologies, c'est intéressant d'étudier les différentes mythologies, c'est toujours des dieux sexués. Là, ce qui est assez intéressant, le dieu d'Israël n'est pas un dieu sexué. Il est unique et il n'est pas sexué. C'est-à-dire que, parce qu'il est esprit. Et donc, c'est très intéressant, c'est premièrement qu'il y a un dieu unique, deuxièmement, il n'est pas sexué. Troisièmement, c'est qu'on a été créé. Pour les Grecs, en particulier, la matière est éternelle. Je veux dire, quelque part, la matière, bon, voilà, il y a quelque chose d'éternel, voilà. Donc, du coup, nous, on dit, il y a un début, il y a une fin. Et avec le judaïsme et a fortiori le christianisme, la notion même de temps change. C'est-à-dire que, on passe d'un temps circulaire, parce qu'il y avait le fait chez les Grecs, et on voit aussi ça chez les Asiatiques, dans tout à fait une autre culture, mais le fait que ça revient, l'éternel retour, la roue tourne, donc un temps qui tourne, mais du coup, qui ne finit pas et qui ne commence pas. Et puis il y a un temps linéaire, qui est le temps judéo-chrétien. Vous savez, c'est tout à fait... Je prends par exemple les Asiatiques. Vous travaillez en Inde, vous travaillez en Europe... Le fait de croire en la réincarnation ou à la résurrection, ça vous change le rapport au temps. Vous comprenez? Parce que ça, forcément, le fait de savoir qu'il y aura un début et une fin, ben, ça met un peu plus la pression, quoi. Ah ben oui, parce que on est dans notre tête, il y a le fait que quelque part, Mais quoi qu'il arrive, ma vie, je vais me réincarner. Il n'y a pas le feu au lac. Hein. Il n'y a pas le feu au lac. Je veux dire, de toute façon, si ça ne se fera pas dans cette vie, ça se fera dans l'autre. Et donc, de ce fait-là, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Je crois qu'il est important de se dire que le rapport au temps, on sort un petit peu de notre sujet, mais voilà. Ensuite, une autre chose qui a été créée intéressante, c'est que Dieu crée en séparant. Et Dieu crée d'abord par sa parole. Il crée par sa parole, et ça c'est ce que nous dit la Bible. Alors, et ça c'est absolument unique, comme récit. Hein? Il crée par sa parole, et Dieu dit. Et Dieu dit, faisons ceci, faisons cela, etc. Et Dieu dit. Et il crée par sa parole en séparant. Il sépare quoi ? Le jour et la nuit. Il sépare quoi ? Les mers et les terres. Il sépare quoi ? Les différentes espèces, les reptiles et les oiseaux du ciel. Il sépare à l'intérieur les différentes espèces de végétaux. Alors qu'au début, le monde était tohu-bohu, c'est en hébreu, tohu-bohu, alors que le monde était tohu-bohu, vous pouvez éteindre le truc, du coup, Dieu va mettre un ordre par sa parole. Et ça, je crois que de ce côté-là, c'est intéressant de dire que... pourquoi c'est important ? Parce que nous parlons d'un ordre que dans la nature, en scrutant la nature, nous découvrons un ordre. Et c'est là que la question est la vraie différence avec tous ceux qui sont... Et donc nous découvrons un ordre et donc nous découvrons une place. Chacun a sa place et il y a une place pour chacun. Alors que dans la théorie du genre... Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'ordre. L'ordre, c'est moi qui le mets. L'ordre, c'est moi qui le mets. De dire que l'homme ou la femme ont une place, non. C'est la place que moi je me crée et que je me forge à la force de mes petits poignets. Voilà ma place. Dans la lutte, struggle for life, comme disait Darwin, un struggle for life, la lutte pour la vie. Donc vous voyez, les univers mentaux de chacun sont complètement différents. L'univers mental qui dit il y a un ordre dans la nature et à travers des réalités physiques, visibles, eh bien je remonte à des réalités, à celui qui est à la source de cet ordre, parce que cet ordre-là, il n'est pas le fruit du hasard et de la nécessité, il a bien été le fruit d'une volonté. Ou alors de dire ce qui nous entoure n'a ni commencement ni fin, n'a pas d'ordre, n'a pas de... ça a été juste le fruit de combinaisons de molécules qui sont mises en place de façon hasardeuse. Il y a des choses qui sont apparues, d'autres qui ont disparu, et voilà, c'est comme ça. C'est complètement différent. C'est-à-dire, la manière de voir la vie est complètement différente. Et donc, évidemment, de dire que Dieu a un ordre, Dieu a mis un ordre par sa parole, et la parole de Dieu, c'est... le verbe de Dieu, c'est le Dieu un verbe, c'est quoi la fonction du verbe ? C'est la fonction de dire l'action du sujet, verbe, hein, sujet, verbe, complément. Donc le verbe, c'est celui qui dit l'action du sujet, et donc le verbe de Dieu dit l'action de Dieu. Et ce verbe-là, nous croyons en ce temps de Noël qu'il s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Donc c'est intéressant de dire qu'il y a une parole qui a été donnée à la création et il y a une parole qui a été donnée à la rédemption et qui s'est incarnée, pour le coup dans un corps masculin, hein, et ce n'est pas non plus un hasard, qui s'est incarnée et qui nous remettre dans cet ordre, au fond, qui nous remet vers Dieu comme source. Vous voyez, comprenez les deux trucs. Hein, donc bon. Pour ce qui est de la... création de l'homme et de la femme. Alors ça, on attaque déjà un peu plus dans le... Ça, c'était l'introduction. On attaque dans le sujet. Il y a deux récits. Donc, il y a deux récits qui nous disent quelque chose, là, encore une fois. Hein. On dit, mais ça, c'est des balivernes de vieilles bonnes femmes ou je sais pas quoi, ou des contes enfantins. Oui, d'accord, mais on va regarder ces récits. Je veux dire, même les récits mythologiques, pour le coup, qui sont complètement construits, nous apportent quelque chose et nous disent quelque chose de réalité humaine. C'est des récits fondateurs. Mais là, c'est un récit qui est de la parole de Dieu. Et donc, nous dit, qu'est-ce qu'on va tirer de ce récit et qui va nous aider à découvrir la vocation de l'homme et de la femme. On va lire en Genèse. Donc, il y a deux récits, deux traditions qui ne s'opposent pas, c'est deux regards différents. Hein? En chapitre, Genèse chapitre 1, 26 à 28. Et donc, chapitre 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Premièrement, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que jusqu'à la création n'est complète qu'avec la création dans ce premier récit, où hommes et femmes sont créés ensemble, hein, hommes et femmes sont créés ensemble, le mot, en fait, c'est mâle et femelle, le mot, c'est mâle, pour qu'il dit mâle, c'est zarar, avec un Z, zarar, Z-A-R-A-R, qui signifie se souvenir. Et le mot qui dit femelle, c'est nekeva, N-E-K-E-V-A, qui signifie creux, réceptacle, espace intérieur. Donc, mâle et femelle, il les fit. Donc, première chose, c'est intéressant de dire que, au fond, la vocation première de l'homme, si on prend ce récit, ça va être de faire mémoire. De faire mémoire, c'est-à-dire dans le sens aussi liturgique. Faire mémoire, on le sait bien pour la Bible, la mémoire n'est pas la fonction qui nous permet du passé, mais c'est au contraire, la mémoire, c'est la fonction du présent. C'est la capacité du présent, la mémoire. La mémoire, dans le sens biblique, c'est celle qui rend présent quelque chose du passé. On fait mémoire dans la liturgie de la mort, la passion, la mort, la résurrection de Jésus, et ça donne l'Eucharistie, présence réelle du Christ sur l'autel. On fait mémoire du 14 juillet, grâce à Dieu, il n'y a pas le 14 juillet qui se réactue sous nos yeux. Alors que quand on fait mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a cette présence. Et donc pour le peuple juif, la mémoire, c'est la faculté du présent. On fait mémoire dans ce sens-là. Et donc, zarar, en hébreu, ça veut dire faire mémoire, se souvenir, rendre actuelle la chose qui était dans le passé. Hein, et donc, ça veut dire au fond... quelque part, il va rendre actuel, c'est lui qui est chargé dans ce récit, de l'homme, de la responsabilité de la présence de Dieu. Et ça, c'est assez intéressant. Dans la Bible, celui qui a la charge spirituelle, c'est l'homme. Alors que dans la réalité, c'est pas toujours comme ça, mais dans la Bible, c'est comme ça. Dans le judaïsme, par exemple, c'est l'homme qui est chargé de l'application des 613 commandements. Vous savez, les 613 commandements, ben non seulement il y a eu les 10 commandements, mais ensuite il y a eu, chaque religion crée des tas d'interdits, des tas de commandements, etc. Par exemple, un commandement, c'était, tu toucheras, quand tu entreras et tu sortiras dans ta maison, tu toucheras la Torah. Donc, si vous avez été en Israël, dans les hôtels, vous avez une petite Torah qui est clouée sur le linteau des portes, en mémoire de, justement, du linteau qui a été marqué au moment de la Pâque, etc. Donc tu toucheras ça et tu toucheras, voilà, ça c'est un commandement. Ensuite, plus ou moins, selon où le juif met le curseur, il est plus ou moins pieux. Alors, normalement, il doit attacher aussi une bande à son bras. Si je t'oublie, ma Jérusalem, que ma main droite m'oublie. C'est-à-dire que, du coup, je pense à Jérusalem, en faisant, ça c'est des commandements. Donc, Jésus, quand il est venu, il y avait des commandements partout. Alors, sans compter les ablutions, sans compter les purifications, tout ça, c'était des commandements. Mais qui est en charge d'application? C'est-à-dire, qui est en charge du lien avec Dieu, qui s'exprimait par les 613 commandements? C'était l'homme. Hein? Pour la femme, et donc c'est le côté sacerdotal de l'homme. C'est intéressant, il y a ce côté d'offrande et de mémoire, de faire mémoire de la présence de Dieu, ça a été dans le récit biblique confié à l'homme. Quel est le sacerdoce de la femme dans la Bible? C'est la vie. C'est pour ça que la femme est dispensée des commandements. Elle n'a pas à... non pas qu'elle n'a pas obéi à Dieu, mais c'est quelque part, la vie va être en son sein le lieu où elle va rendre gloire à Dieu. Et l'homme a besoin de quelque chose, de faire quelque chose, on est dans le faire, là, les commandements, c'est le faire extérieur, il a besoin de faire quelque chose pour rendre gloire à Dieu. Parce qu'en son corps, il ne trouve rien, quelque part, qui transcende son corps. Alors que la vie, évidemment, le fait de donner la vie, ça transcende absolument notre réalité personnelle. Voilà. Voilà, c'est une première chose. C'est, par exemple, il est dit dans la voix de la Torah. La voix de la Torah, c'est un commentaire de la Bible, etc., de la Torah. Hein. Les femmes attirent sur le foyer la présence et la protection divine qui y planent invisiblement comme la colonne de nuée fixée au-dessus de la tente. Donc, quelque part, dans le rôle de la femme... il y a cette dimension au fond d'apporter la présence de Dieu, et c'est intéressant, par exemple dans le Shabbat, qui apporte la lumière, c'est la femme. Autant c'est l'homme qui préside le Shabbat, autant c'est la femme qui apporte la lumière. Elle est ce rôle de lumière, on y reviendra après, d'éclairer aussi l'homme, de rappeler à l'homme la présence de Dieu, parce qu'il a très fort tendance à l'oublier, pour se ruer dans l'activité, dans l'efficacité, dans le faire. Parce que voilà, mais aussi ça. Du coup, il lui faudra quelqu'un qui l'aide. Et on va venir tout de suite. Donc ça. Ensuite, l'homme qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. C'est intéressant de voir que l'homme et la femme ont une place dans la création et une place qui est supérieure aux animaux. Ce sont les êtres supérieurs au sommet de toute la création. Et non seulement ils sont des êtres supérieurs, mais ils donnent l'image de Dieu, hommes et femmes ensemble, pas séparément. Hommes et femmes ensemble donnent l'image de Dieu, donnent la ressemblance de Dieu, sont le rappel de la présence de Dieu pour toute la création. L'un pour l'autre, hommes et femmes, mais pour l'ensemble de la création, parce que c'est les seuls à être dotés à la fois d'intelligence et de volonté. Donc on dit qu'il y a une place pour l'homme et la femme qui n'est pas, hein, même si nous avons un chien qui s'appelle Toby, qui il lui manque que la parole, j'allais dire, tellement il est intelligent et quand il vous regarde, vous craquez complètement. Oui, mais bon, il n'est pas de nature humaine et je veux bien qu'il y ait des langages de chiens, d'abeilles, etc. Des formes, je veux bien, ça, pourquoi pas qu'il y ait communication avec les dauphins, etc. Bon, mais on saute, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant, hein, dans l'évolution. Il y a un saut qualitatif qui fait que la création de l'homme et de la femme n'est pas du tout du même ordre que les autres. Peut-être il y a une évolution qui a permis à Dieu de créer l'homme et la femme quelque part. Mais il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'évolution biologique. Il y a un saut. Ça veut dire quoi, ça, que l'homme et la femme ont une place? Ça veut dire que ils ont aussi... ils ont aussi une vocation, et ça veut dire que la création est quelque part attachée à la place qu'occupent l'homme et la femme dans leur propre vocation. La création dépend d'eux. C'est assez intéressant parce qu'au fond, avec les Lumières, tout a été fait pour sortir les hommes et les femmes de cet asservissement de la nature et qu'ils puissent sortir justement de la nature vue au contraire comme un lieu d'esclavage, vu comme un lieu de réduction. Hein, et donc il a fallu sortir l'homme et la femme de la nature, alors qu'on voit bien aujourd'hui avec l'écologie, on redit, finalement il y a peut-être un ordre dans la nature. Et quand on ne respecte pas cet ordre dans la nature, il y a des problèmes. Mais qui en est la cause? L'homme et la femme. Ah oui, d'accord, donc du coup, ça veut dire que quelque part, la nature dépend de nous. Donc c'est assez intéressant, et c'était notre ami Chevènement, député ou sénateur de Belfort, qui disait, avec l'écologie, c'est la fin des Lumières. C'est intéressant, il aime bien les provocations, lui, l'ami Chevènement, mais c'est la fin des Lumières. Mais il ne le disait pas dans une défense de la vocation de l'homme et de la femme, c'est pas un père de l'Église, Chevènement. Mais c'est marrant parce qu'il a eu cette intuition, ce qui est assez juste. L'écologie, quelque part, peut-être va être ce lieu où on va se rappeler de l'ordre. Et c'est pour ça que le pape Benoît XVI a parlé face au Parlement au Bundestag en Allemagne lors de sa visite, il a parlé de l'écologie humaine. Et qui étaient les seuls à avoir boudé la présence de Benoît XVI au Parlement? Les écologistes. Parlement allemand, les écologistes. Ils n'étaient pas là. Ils avaient boycotté le truc. Tous les autres étaient là, sauf eux. Alors bon, c'est intéressant, mais parce que justement, quelque part, ça renvoie. Alors nous, on arrive évidemment comme Église et porteuse aussi de cette tradition judéo-chrétienne. On arrive vraiment avec. Donc il y a une écologie humaine. C'est-à-dire que nous aussi, on a une écologie. On a un écosystème. Hommes et femmes, il y a une écologie de l'homme et de la femme. Alors peut-être les choses vont revenir, j'allais dire, par ce biais-là, pas comme forme de boomerang, et ça va être assez intéressant, en tout cas, soyez très attentifs à tous les trucs écologistes, parce que c'est... il y a deux tendances, soit de dire, au fond, il y a un ordre, etc., soit de dire, le problème, c'est l'homme et la femme. Et du coup, il faut réduire absolument les naissances. En fait, sans la nature humaine, sans personne humaine sur Terre, ça irait beaucoup mieux. Ça a été beau. J'avais fait en son temps une analyse du film Avatar. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, très intéressant, sûrement qui voyait le côté l'homme et la femme étaient une menace avec la fameuse carrière pour chercher du minerai dans cette nouvelle parce qu'il n'y avait plus de minerai sur la Terre, il fallait aller dans une autre planète. Et puis au contraire, les êtres de ces planètes-là étaient au contraire des êtres absolument féeriques, alors que l'homme et la femme étaient un vrai problème. Donc c'est bon. Donc soyez attentifs à ça. Bon, on peut pas parler de tout. Mais homme et femme, Dieu créa l'homme et la femme à son image et ressemblance. Il les créa homme et femme. Donc c'est de multiplier, en remplissant la terre, l'assujettissez, voilà, dominer les poissons. Donc il y a une domination dans le sens responsabilité. Comme hommes et femmes, nous sommes responsables de la création. Dieu nous a créés, donné les clés de la création. Donc de ce point de vue-là, c'est très important de dire que la parole de Dieu nous responsabilise. On est au sommet, mais on est au sommet comme serviteur de la création.